Je vous invite à faire une lecture dans ce texte bien souvent lu, bien souvent cité, de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 8. L'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, excusez-moi. Voilà, nous voulons saluer ce matin les visiteurs qui sont parmi nous, soyez les bienvenus. Et que Dieu vous bénisse, chers amis, chers frères et sœurs. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Il est dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Voilà, je pense que vous acquiescerez si je vous dis que c'est merveilleux d'être sauvé. Voilà, je suis heureux d'être sauvé. On le chante, hein, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et c'est une glorieuse réalité, vous voyez, il faudrait que chaque matin puisse s'éveiller avec émerveillement, disant « Seigneur, c'est formidable ce qui m'arrive, je suis ton enfant. » Et ce n'est pas le fait du hasard, mais comme nous le lisons là, c'est le résultat, le produit de la grâce de Dieu, de la seule grâce de Dieu, et même si nous avons pu manifester la foi pour saisir le salut, eh bien, la foi, c'est Dieu lui-même qui a su la susciter dans notre cœur. Alléluia. Mais le travail que Dieu a entrepris dans nos vies ne s'arrête pas à la communication du salut. Vous voyez, ce serait vraiment une vision étriquée que de penser que, eh bien, nous échapperons à l'enfer, nous serons épargnés, lorsque sonnera l'heure du jugement de Dieu. Ça va bien au-delà de ce fait, voyez. C'est pourquoi dans ce texte, il est dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, etc. Et au verset 10, c'est sur cela que je voudrais arrêter notre réflexion ce matin, il est dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. » Nous sommes son ouvrage. Dieu veut réaliser en chacun d'entre nous ce que l'on appelait autrefois, à propos d'un habile artisan, de la belle ouvrage. Hein? Vous connaissez cette expression, je pense, voyez, de la belle ouvrage, ça veut dire que ce n'est pas un travail bâclé, ce n'est pas un truc qu'on fait, qu'on sort à la chaîne, là, mais c'est quelque chose qui est fait avec soin, avec application, avec compétence aussi. Et Dieu, dans nos vies, dans la vôtre, dans la mienne, veut accomplir son œuvre, son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Et pour cela, eh bien, continuons, si vous voulez, à employer cette image, comme un habile artisan, Dieu agit avec compétence. Il sait ce qu'il fait. Il ne laisse rien au hasard. Peut-être vous êtes en train de passer par une période de votre vie où vous ne voyez pas trop clair et finalement vous ne voyez pas trop où le Seigneur veut en venir. Mais vous inquiétez pas, lui sait où il va avec vous. Lui sait ce qu'il a entrepris, ce qu'il veut mener à bien dans votre existence. Dieu agit avec compétence, il agit avec efficacité. Ne l'oublions pas, il agit avec amour, alléluia. Et puis aussi parfois, eh bien, lorsque c'est nécessaire, il agit avec rigueur. Et c'est cette œuvre que Dieu a entreprise dans notre vie et qu'il veut mener à bien, qui permettait à Paul de dire, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1er, au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Voilà, Dieu ne fait pas les choses à moitié, il veut rendre en nous son œuvre parfaite. Alors, pour ce faire, pour agir dans nos vies, pour accomplir son œuvre, son ouvrage dans notre existence, Dieu agit comme un potier, il agit comme un orfèvre et il agit comme un vigneron. Et si vous voulez, nous allons voir ces trois aspects successifs, Dieu qui agit comme un potier, Dieu qui agit comme un orfèvre et Dieu qui agit comme un vigneron. Pour ce qui est du potier, on va lire un texte qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18 et au verset 6. Le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18 et au verset 6, voici ce qui est dit. Jérémie, chapitre 18, verset 6, verset 1er, pardon, jusqu'au verset 6. Jérémie 18, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Ne puis-je pas agir envers... Et la parole de l'Éternel, pardon, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous, comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Alors, ce texte initialement s'adressait, c'est vrai, au peuple d'Israël, au peuple élu, au peuple de Dieu, mais je pense, et vous en conviendrez, que nous pouvons appliquer ces paroles à notre propre vie, n'est-ce pas, personnelle, individuelle, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu. On connaît ce cantique qui dit « Il est le potier et je suis l'argile, etc. etc. » Quand un potier place la masse d'argile informe, vous voyez, ça ressemble à rien, un paquet d'argile, paf, il pose ça sur son tour et il commence le travail. Et quand le potier place la masse d'argile informe sur le tour, il a déjà dans son esprit l'image du vase aux formes harmonieuses qu'il veut en faire de cette masse d'argile. Il a un projet, vous voyez. Il voit dans son esprit, en quelque sorte, le but final, l'objectif. Et il va travailler pour parvenir à réaliser cet objectif. Eh bien, Dieu a aussi dans notre vie un projet. Gloire à Dieu. Vous avez vos projets peut-être, hein? Projet professionnel, je ne sais pas moi pour les jeunes, projet matrimonial, hein? Ce n'est pas illégitime. Projet dans le domaine des études, projet dans toutes sortes de domaines, c'est normal, ça fait partie de la vie et ça n'est pas interdit à condition que nous soumettions bien entendu nos projets au Seigneur. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que si moi j'ai mes projets pour ma vie, Dieu a les siens, alléluia, et les siens sont bien meilleurs que les miens. Les siens sont bien meilleurs que les vôtres. Alors, quel est son projet? Eh bien, dans la deuxième épître à Timothée, puisque nous parlons d'argile, de potier et de vase, on va lire quel est le projet que Dieu a formé à notre intention. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2 et verset 20, voici ce que nous trouvons. Deuxième à Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil, d'un usage ordinaire. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, des choses qui sont mentionnées précédemment dans les versets qui précèdent, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Alléluia. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. En tant que potier, que divin potier, le Seigneur veut faire de chacun d'entre nous des vases d'honneur. Amen. Des vases d'honneur. C'est-à-dire mis à part pour un usage noble. Quel est cet usage noble? C'est que vous et moi, nous soyons des serviteurs et pour les dames, des servantes de Dieu. Des vases d'honneur sanctifiés, c'est-à-dire purifiés, nettoyés, lavés, n'est-ce pas, comme il se doit. Des vases d'honneur sanctifiés, utiles au maître. Quelle grâce que Dieu veuille bien nous utiliser. Vous ne trouvez pas que c'est formidable, ça? Moi, je suis émerveillé que Dieu m'ait choisi. Je dis, Seigneur, tu avais vraiment besoin de personnel, hein, pour daigner te servir de moi et pour daigner, excusez-moi, se servir de vous aussi, parce que nous sommes tous dans la même situation. Des vases d'honneur sanctifiés, utiles au maître et propres à toute bonne œuvre, voyez. Voilà, des vases d'honneur qui vont servir à faire du bien. Amen. C'est formidable que Dieu veuille se servir de nous pour faire du bien. Hein? C'est vrai, c'est Dieu qui fait du bien. Mais Dieu, pour faire du bien, utilise des instruments humains. Des instruments humains. Et Dieu a ce projet pour chacun d'entre nous que dans ce monde, notre fonction soit de faire du bien à ceux et à celles avec lesquels nous sommes en contact, non seulement dans l'Église, mais aussi hors de l'Église. Alors, dans le texte que nous avons lu dans le livre du prophète Jérémie, il est dit que dans un premier temps, le vase n'a pas réussi. Vous voyez, ça n'a pas marché, ça n'a pas tourné rond, c'est le cas de le dire. Hein. La première tentative a échoué, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'argile ne devait pas être suffisamment malléable, souple, et il faut reconnaître parfois dans notre vie chrétienne, ça arrive comme ça. Dieu, si je puis m'exprimer ainsi, comprenez le sens dans lequel je le dis, a du mal avec nous. Non pas qu'il soit frappé de faiblesse tout à coup, mais il a du mal parfois avec nous parce que nous lui opposons une certaine résistance. Tenez, souvenez-vous d'un certain Jonas dans la parole de Dieu. Voilà un homme dont Dieu voulait se servir, il avait pour sa vie un bon projet, n'est-ce pas, qu'il soit utile, qu'il soit un vase d'honneur et qu'il puisse faire du bien, en l'occurrence prêcher la parole de Dieu aux gens de Ninive, les avertir du jugement à venir et les inciter à la repentance. Mais Jonas ne l'a pas entendu de cette oreille, et vous connaissez l'histoire, il a fui à Tarsis, il s'est payé une croisière en Méditerranée parce que il sortait du cadre de la volonté de Dieu. Mais le potier, quand il rencontre une résistance de la part de l'argile, quand elle n'est pas suffisamment malléable, souple, eh bien il n'abandonne pas la partie pour autant. Et vous savez, dans nos vies, c'est pareil. Heureusement que Dieu ne se décourage jamais avec nous. Pourtant, des fois, nous sommes décourageants. Et on arrive même à se décourager soi-même, en constatant les dégâts, en constatant que, eh bien, ça n'est pas comme ça devrait être. Mais Dieu ne se décourage pas, il n'abandonne pas la partie, il ne renonce pas malgré les résistances que nous pouvons lui opposer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus la résistance est importante, et plus lent sera le travail pour parvenir au but. Le but étant, rappelez-vous, que nous devenions des vases d'honneur. Mais ça peut se faire plus ou moins rapidement, selon la docilité, ou au contraire, la résistance que nous manifestons envers la volonté de Dieu. Avec Jonas, ça a été particulièrement laborieux. On y est arrivé à faire de lui un vase d'honneur. Mais il a quand même fallu qu'il fasse un petit stage de 3 jours dans le ventre du poisson, au fond de la mer. Vous connaissez l'histoire. Et puis, Dieu a fait grâce. Alléluia. Pendant 3 jours, il a réfléchi. C'est fou comme on réfléchit. Mieux quand on est dans un trou. Hein. Vous avez remarqué ça? C'est bizarre. Nos neurones se mettent bien en place, bien comme il faut, quand nous sommes acculés par les événements. Que de gens qui ont pensé que, oh, s'ils sortaient du cadre de la volonté de Dieu, waouh, ils allaient connaître le bonheur, le succès, la réussite. Et puis, quand ils ont été le nez par terre, dans la poussière, ils se sont dit, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Peut-être que j'y suis pour quelque chose. Et Jonas, dans le ventre du poisson, il a réfléchi, vite et bien, ça a pris quand même 3 jours. Il a invoqué Dieu, il s'est humilié, et Dieu l'a fait grâce. Et Jonas est parti à Ninive, comme Dieu lui avait ordonné. Et là, eh bien, étant devenu entre-temps un vase d'honneur, il a fait du bon travail. Alléluia! Parce que, dites-moi, la ville de Ninive tout entière s'est convertie. C'est pas beau, ça? Je voudrais bien, moi, que la ville d'Annecy se convertisse tout entière. L'Écriture dit, là, dans le texte, que le roi en tête est descendu de son trône. Il s'est revêtu d'un sac en signe d'humiliation, de repentance, et il a engagé tout son peuple à faire de même. Dites-moi, si les autorités municipales prenaient une telle décision, ah, ce serait formidable, vous voyez? Ainsi, Dieu a travaillé dans la vie de Jonas pour l'amener au but, faire de lui un vase d'honneur. Donc, la conclusion que nous pouvons tirer de cela, c'est qu'il nous appartient de faire preuve de soumission, de docilité, d'humilité, d'obéissance, je dirais, en tant qu'argile humaine, de souplesse, entre les mains du divin potier. Amen. Pour qu'il puisse parvenir à faire de nous le plus rapidement possible, comme il le désire, des vases d'honneur, sanctifiés, utiles à leur maître et propres à toute bonne œuvre. Amen. Nous sommes sur le tour, tout au long de notre vie. Et il travaille, n'est-ce pas ? Pour nous former. Parce que quand nous venons à lui, nous sommes mal formés ou déformés. Alors il ne veut pas nous réformer, mais il veut nous transformer par la puissance de sa parole, par la puissance de son esprit, à condition que nous nous soumettions à lui. Et ce n'est pas si facile que ça de se soumettre, reconnaissez-le. Ou alors, il n'y a que moi ici qui a la tête dure, hein. Non. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémané, a dû lutter contre sa propre nature, nature humaine, sans péché, certes, puisqu'il n'avait pas part à la corruption qui est la nôtre, mais quand même, il y a eu ce combat qui l'a amené jusqu'à dire, finalement, après un bon moment de prière et même d'agonie, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans un premier temps, il avait dit, « Ah, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi !» Mais après ce temps de lutte, de combat, eh bien, il a pris la victoire, disons-le, sur lui-même, finissant par dire, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions, vous et moi, en arriver là. Il y a ce que je veux, il y a ce que tu veux. » Et des fois, ce n'est pas toujours en accord, ce que Dieu veut, ce que nous, on veut. Mais il faut arriver au point où on dit, Seigneur, il faut absolument que ma volonté capitule devant la tienne. Et vas-y, emploie les moyens qu'il faut. L'argile, tu la pétris pour en faire finalement, au bout du compte, un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Et puis, si Dieu agit en nous, si Dieu intervient en nous pour réaliser son ouvrage comme un potier, il travaille en nous comme un orfèvre. On va lire 2 textes à ce sujet dans le livre du prophète Malachie. C'est juste avant l'évangile de Matthieu, au chapitre 3 et au verset 2. Voilà, livre du prophète Malachie, chapitre 3 et le verset 2. Voilà, juste avant l'évangile de Matthieu, c'est le dernier des livres de l'Ancien Testament, prophète Malachie, chapitre 3, et le verset 2. Il est dit ceci, on peut lire même à partir du verset 1er. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra. Il s'agit d'une prophétie messianique qui annonce déjà la venue du Christ, du Fils de Dieu. Et la suite dit, car il sera comme le feu du fondeur ou de l'orfèvre, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. Et puis dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, au verset 4, il y a encore une parole que j'aimerais souligner. Il est écrit ceci, chapitre 25 du livre des Proverbes, au verset 4. « Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur ou pour l'orfèvre. » Il est question, là vous l'avez compris, d'un travail de purification, d'épuration, que le fondeur, que l'orfèvre réalise pour ôter les scories, les saletés, les impuretés du métal précieux. Et pour ôter les scories, l'orfèvre fond le métal. Il le fait passer par le feu, justement pour qu'au moyen du feu en soient extraites toutes les impuretés et que le métal puisse apparaître pur, totalement pur. On dit que le fondeur estime que le travail de purification est achevé quand il peut voir son visage se refléter dans le métal en fusion. Voilà, c'est ce qui lui permet de dire, voilà, là c'est bon, c'est ok, c'est nettoyé, c'est pur, parce que je peux me mirer, je peux refléter, mon visage se reflète dans le métal en fusion. Il y a là, bien sûr, une allusion que nous pouvons trouver. Le but que Dieu poursuit avec nous, c'est quoi? Eh bien, c'est faire en sorte que nous reflétions Christ. Amen. Que nous reflétions Christ par notre attitude, notre comportement, et qu'ainsi nous présentions Christ un monde qui ne le connaît pas. Il y a des gens, mes amis, qui n'ont jamais lu la Bible et qui peut-être ne la liront jamais. Mais ils vous voient vivre. Ils me voient vivre. Et en nous voyant vivre, il faut qu'ils puissent voir en nous l'image de Christ se refléter. Il faut qu'ils aient une notion, une idée exacte de ce qu'est le Seigneur Jésus-Christ au travers de notre propre vie. Et pour ça, il y a un travail de purification qui doit s'opérer. Alléluia. Et pour parvenir à ce but, comme le fondeur, comme l'orfèvre, Dieu nous fait passer aussi par quoi? Par le feu. Eh oui! C'est écrit d'ailleurs, tenez, dans la première épître de Pierre au chapitre 1er au verset 6, voici ce que l'apôtre Pierre, un des familiers de Jésus, a pu dire. Voilà, 1 Pierre chapitre 1er verset 6, il parle de la joie du salut, c'est là ce qui fait votre joie, donc le salut. Écoutez la suite. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, voyons, on y revient, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Le feu de l'épreuve est utile pour tester notre foi, pour en vérifier l'authenticité, la fermeté, la permanence et pour l'épurer de toute scorie. Peut-être vous passez par l'épreuve et ce n'est pas toujours marrant. Frères et sœurs, ne maudissez pas l'épreuve que vous êtes en train de vivre. Ça m'est arrivé par rapport à certaines situations que j'ai vécues et que je vis encore d'une certaine manière. Et je me disais, mais pourquoi moi? Ça va tellement mieux chez les autres. Et au travers de ces souffrances, au travers de ce feu de l'épreuve, Dieu nous épure. À condition que nous le laissions faire, c'est vrai, il nous fait passer par le feu. Alors pour certains, cette épreuve du feu révèle la médiocrité ou même l'absence de foi authentique. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu, vous savez, quand Jésus, dans la parabole du semeur, parle des différents terrains qui reçoivent plus ou moins favorablement cette parole, il dira ceci, n'est-ce pas ? Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, de persévérance. Et dès que survient une tribulation, une épreuve ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà. Il y a des gens, à la moindre difficulté, boum, badaboum, ils s'écroulent. Ils ont pourtant vécu quelque chose d'authentique avec le Seigneur. Leur cœur a été touché par la parole de Dieu. Il y a eu une expérience de conversion, semble-t-il. Mais ces gens-là se révèlent décevants parce qu'au moment de l'épreuve, ils fléchissent. Ils disent, bon, si c'est comme ça, moi je croyais qu'être chrétien, c'était un tapis de rose, c'était marcher sur du velours, que la vie chrétienne allait être un long fleuve tranquille, c'est dans cette perspective que je me suis converti, c'est pas comme ça que ça marche, eh bien j'en vois tout promener. Quelle erreur, mes amis. Non, non. Seigneur, tu permets l'épreuve pour m'épurer, pour me transformer. Eh oui, pour faire fondre le métal, l'orfèvre le dépose dans un récipient qu'on appelle le creuset. Et j'ai lu quelque part que ce mot, ce terme « creuset » dérive du mot « croix ». Creuser, croix. Jésus n'a-t-il pas dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La mort à soi-même, n'est-ce pas qu'il y a dans notre vie des choses qui doivent mourir en nous, non ? Il n'y a pas des choses qui doivent mourir en nous, certainement. Des habitudes, des attitudes, des paroles, des pensées, des réactions, des comportements qui ne sont pas encore, malgré le fait que nous sommes enfants de Dieu et sauvés en route vers le ciel, mais qui ne sont pas encore en conformité avec la volonté de Dieu. Alors Dieu permet que nous passions par le creuset, par la croix, par l'épreuve. Et là, eh bien, les scories apparaissent, elles remontent à la surface. Et on peut les enlever. On peut dire, Seigneur, je ne savais pas qu'il y avait ça dans mon cœur. Ou alors peut-être, je fermais les yeux. Mais là, au creuset de l'épreuve, au creux de l'épreuve, tu viens de me révéler, de me montrer que cet aspect de ma vie que j'ai négligé peut-être, j'ai dit, oh, c'est pas bien méchant, on peut faire avec. Eh bien, ça ne te glorifierait pas. Seigneur, viens ôter ça de mon cœur. Et c'est ainsi qu'à la faveur de l'épreuve, du feu de l'épreuve, le métal est épuré et purifié. Gloire à Dieu, pour que au jour où le Seigneur reviendra, eh bien, le résultat soit la louange, nous l'avons lu tout à l'heure, l'honneur et la gloire. Amen. Alors on dit, Seigneur, divin orfèvre, travaille dans ma vie. Et je te donne le droit. Il a le droit. Mais il aime aussi que nous le lui reconnaissions. Je te donne le droit de me faire passer, ainsi que tu le jugeras nécessaire, par le feu de l'épreuve pour m'épurer, pour me purifier, pour me sanctifier et pour m'amener plus en harmonie avec ta volonté. Amen. Et puis, pour réaliser son œuvre en nous, et ce sera le dernier point, le Seigneur travaille comme un vigneron. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 1er, je suis sûr que vous connaissez ce passage, Jésus nous dit la chose suivante. Jean, chapitre 15, verset 1er. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, c'est-à-dire il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé, si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que vous, mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Mon Père est le vigneron. Jésus est le cep et chacun d'entre nous, nous sommes les sarments. Voilà. Et le travail du vigneron a ceci de spécial, c'est que chaque pied de vigne demande des soins particuliers. Si vous vous promenez dans une vigne, vous vous rendrez compte que aucun cep, aucun pied de vigne ne ressemble à son voisin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous sommes tous différents, ok? Et que parce que nous sommes tous différents, Dieu nous applique un traitement spécial à chacun. La manière dont Dieu va s'y prendre dans votre vie ne sera pas exactement la même que la façon de s'y prendre de Dieu pour agir dans ma vie. Et il faut accepter ça, vous savez. Un jour, le Seigneur a prophétisé à l'apôtre Pierre. Il lui a dit, Pierre, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te scindera et te mènera où tu ne voudras pas. Et le texte précise dans l'évangile de Jean, vous le lirez, qu'il disait cela pour indiquer par quelle mort, en martyr, Pierre glorifierait Dieu. Et l'histoire, pas l'histoire biblique, mais l'histoire tout court, nous apprend qu'effectivement, quelques dizaines d'années plus tard, Pierre a subi le martyr. Et lorsque Jésus lui a dit ça, derrière eux, il y avait l'apôtre Jean. Et Pierre a jeté un regard en arrière, et quand il a vu son collègue et ami Jean, il a dit, « Seigneur, et celui-là, là, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Et Jésus a répliqué, « Que t'importe ? Toi, suis-moi. Selon la part que je t'ai faite, selon le chemin que j'ai tracé pour toi, selon la manière qui sera la mienne d'agir dans ta propre vie. J'agirai aussi dans la vie de Jean d'une autre façon. J'ai pour lui d'autres plans, d'autres projets, mais toi, suis-moi. » Eh bien, c'est ce qu'il nous faut faire. Pas regarder toujours au voisin en disant, « Ouais, mais chez lui, ça va mieux. Lui, il n'est pas malade. Lui, il a plein de sous. Lui, il réussit. Son ménage, ça tourne bien. Tandis que moi, eh bien moi. Que t'importe, toi, suis-moi. Selon la part qu'il t'a faite. » Voyez ? Parce qu'il applique à chacun d'entre nous un traitement spécial. Et on l'a dit tout à l'heure, on le répète, il ne se trompe pas. Vous êtes sûr de ça? Dieu ne commet jamais d'erreur. Jamais. Même si nous, on ne comprend pas, lui, il comprend. En tout cas, chaque pied de vigne, chaque sarment doit être émondé et doit subir tous les ans une taille méticuleuse pour éliminer les sarments stériles, inutiles et nuisibles. Sans cette taille systématique et périodique annuelle, sans cette taille répétée, la vigne dégénérerait, elle porterait de moins en moins de fruits pour finir par n'en plus porter du tout. D'ailleurs, Dieu fait ce reproche quelque part à Israël en disant, voilà, je vous ai planté comme une vigne d'un plant, d'un cépage excellent. Comment se fait-il que vous ayez dégénéré en une vigne étrangère? Vous voyez? Le Seigneur nous a régénérés, alléluia, il nous a fait naître de nouveau. Mais après avoir été régénérés, ce serait quand même un comble que nous soyons dégénérés sur le plan moral et spirituel. Et pour ne pas être dégénéré après avoir été régénéré, il faut accepter que le Seigneur procède dans notre vie à cette taille, à ce retranchement dans notre vie de ce qui peut être nuisible, stérile, inutile. Parce qu'il y en a des choses dans notre vie, vous voyez, des fois qui sont là et qui ne sont pas productives sur le plan spirituel. Je suis le sarment attaché, greffé au bon cep, c'est-à-dire Jésus. Dieu le Père est le vigneron. Et le but du Seigneur, c'est que le sarment que je suis porte un fruit abondant à la gloire de Dieu. Quels fruits? Oh, ils sont variés, multiples. La Bible parle d'un fruit de sainteté. Elle parle d'un fruit paisible de justice. Elle parle du fruit de l'esprit, etc. Seigneur, émonde-moi, toi le divin vigneron, pour que je porte par ta grâce, un fruit abondant et d'excellente qualité. Moi, tout ce que je suis capable de produire par moi-même, c'est du vinaigre. C'est pas un bon fruit, c'est un fruit empoisonné. C'est ça la nature humaine. Mais le Seigneur agissant en moi, agissant en vous, eh bien, nous émondant, nous taillant là où c'est nécessaire, gloire à Dieu, il est capable de nous faire porter un fruit excellent qui l'honore et qui le glorifiera. Alors, il faut accepter ce travail d'émondage, même si parfois il est douloureux. Tenez, on va lire quelque chose à ce sujet. Hein. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12 et au verset 4, voici ce qui est écrit. Hein. On suit dans cette pensée d'émondage, de taille, de retranchement. Et voici ce qui est dit. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment ou la correction du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie ou corrige celui qu'il aime, et il frappe de la verge, du bâton, tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ou toute correction semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, et c'est le plus tard qui est important, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, c'est le règne de l'immédiat. C'est pas vrai? Eh ouais. Quand Hélène va voir sa maman, moi j'arrive à table et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Heureusement qu'il y a le congélateur et heureusement qu'il y a le four à micro-ondes. Et dans les 5 minutes, et encore c'est long ça, hein, qui suivent, il faut que ce soit prêt, sinon ça va pas quoi. Hein. Et on est habitué comme ça. Vous voyez ? Alors, je ne me vois pas mitonner un plat pendant une demi-journée, non ? Mais on fonctionne comme ça. Tout va vite aujourd'hui. Tout. Tout et tout de suite. Eh bien non. Dieu, il vise plus tard. Il vise un objectif qui n'est pas toujours immédiat, mais plus tard. Il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi corrigés, tchac, 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 qui ont été ainsi émondés, taillés, un fruit paisible de justice. Quelqu'un disait, il faut donner du temps au temps. Comprenons que Dieu travaille dans notre vie, non pas avec précipitation. Il n'est pas affolé, il ne court pas dans tous les sens. Il travaille à sa mesure et il vise l'éternité. Alors laissons-le agir. Amen. Comme un sage potier, comme un orfèvre hors pair et comme un vigneron expert. Amen. Que Dieu soit béni. Prions-le, s'il vous plaît, quelques instants.